Montpellier, sur internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 10h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le flash info.
Bonjour à tous. Le chanteur Kenji Girac, grièvement blessé, l'artiste de 27 ans a reçu une balle dans la poitrine la nuit dernière sur une aire de communauté de gens du voyage à Biscarrosse dans les Landes. Selon BFM TV, son pronostic vital ne serait toutefois plus engagé. Plus de 200 parties civiles attendues à la barre dans les prochaines semaines. Le procès en appel de l'attentat du 14 juillet de Nice s'ouvre aujourd'hui à Paris. Deux hommes sont jugés pour association de malfaiteurs terroristes 8 ans après l'attaque au camion Bélier qui avait fait 86 morts et plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais en 2016. Les deux accusés avaient été condamnés à 18 ans de prison en première instance. Nice, où Gabriel Attal est d'ailleurs attendu, aujourd'hui le Premier ministre vient y présenter l'expérimentation des internats éducatifs pendant les vacances scolaires. Une visite dans la foulée de ses annonces pour restaurer l'autorité auprès des jeunes après les multiples affaires de violence de ces dernières semaines. Dans l'actualité, également plus de 350 km de bouchons relevés ce matin en Île-de-France, conséquence de la fermeture de l'autoroute A13, toujours inaccessible à la suite d'un mouvement de terrain. Un point de situation est prévu en fin de journée, mais aucune date de réouverture n'est pour l'instant annoncée. Plusieurs élus, comme le député Carl Olive et la présidente de région Valérie Pécresse, sont montés au créneau pour réclamer la gratuité temporaire de l'autoroute A14 et du duplex de l'A86. Benjamin Netanyahou promet d'accroître la pression militaire et politique sur le Hamas dans les prochains jours, déclaration du premier ministre israélien. C'était hier, à la veille de Pessah, la Pâque juive, célébrée à partir d'aujourd'hui sous haute sécurité dans le contexte de conflits au Proche-Orient. En France, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a renforcé les effectifs de sécurité autour des lieux de culte. Et puis du foot, le PSG s'impose 4-1 face à Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Les Parisiens qui se rapprochent du titre et pourraient être sacrés dès mercredi après les matchs en retard de la 29e journée. Un peu plus tôt, Toulouse et Marseille se sont quittés sur un match nul de partout et Monaco est repassé deuxième après sa victoire 2-0 contre Brest. Voilà pour l'info, excellente matinée.
Radio Aviva à Montpellier, Vendargues et Courmont-Terral, 88 FM en DAB+ et partout dans le monde, radio-aviva.com.
C'est une ville qui porte résolument la transition écologique.
Je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par écologie.
Moi, ça m'inquiète pas plus que ça, le réchauffement climatique, parce que je suis pas écolo.
50 degrés à l'ombre, la transition écologique en Occitanie sur Radio Aviva.
Salut et bienvenue dans 50 degrés à l'ombre, l'émission de la transition écologique en Occitanie. Salut Mathieu.
Salut.
Salut Vincent.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, on va parler des métiers de demain. Ces métiers, c'est 300 000 emplois dans les énergies renouvelables, également 300 000 dans l'économie circulaire, qui elle-même regroupe beaucoup de métiers différents. Et aujourd'hui, du coup, on est accompagné de Caïs Anachi, qui est le coordinateur de l'école Être et qui va nous parler de ces métiers de demain.
Du coup, bonjour tout le monde. Merci de votre accueil. Du coup, oui, je m'appelle Caïs Anachi et aujourd'hui, je coordonne l'école de la transition écologique sur le territoire de l'Hérault.
Est-ce que, Caïs, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'école, en quoi elle consiste, quel type de formation elle dispense ?
L'école de la transition écologique, c'est assez simple, c'est une école pour ceux qui n'aiment pas l'école. C'est une école où, en fait, on va dispenser des formations gratuites pour un public âgé de 16 à 25 ans, élargi à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, des formations gratuites aux métiers manuels de la transition écologique, donc les métiers verts et les métiers verdissants.
Et quels sont les prérequis pour entrer dans cette école?
C'est ça un peu la particularité d'une école Être, c'est qu'on ne demande aucun prérequis, on demande juste à ce que le jeune soit motivé pour venir le premier jour de formation. On s'occupe du reste.
Donc de la motivation et autre chose, ou ça suffit?
Ça suffit. Il faut savoir que même la barrière de la langue n'est pas un obstacle pour rejoindre l'école Être, car on applique une méthodologie d'apprentissage assez particulière, c'est l'apprentissage par le faire. On va vraiment apprendre en mettant les mains dedans. La théorie va venir vraiment expliquer les problèmes qu'on va rencontrer dans la pratique.
D'accord. Donc Caïs, quand on pense au métier de demain, on pense souvent à la technologie. Est-ce que c'est en opposition avec les formations que vous dispensez justement à travers l'école Être ?
Non, je ne pense pas du tout que la technologie représente entièrement la transition écologique. La transition écologique, c'est également revenir à des méthodes anciennes et les moderniser. Typiquement, aujourd'hui, on réfléchit de plus en plus à tout ce qui est éco-construction et construction en terre crue. On va utiliser, on va dire, des méthodes qui ont été utilisées avant. avant, tout ce qui est construction en paille, tout ce qui est construction en terre paille, construction en terre crue, donc voilà, c'est pas du tout opposé. Et aujourd'hui, au sein de notre école, il y a également tout ce qui est basse technologie et low-tech, qui sont une manière, en fait, de se réapproprier la technologie. C'est une manière, en fait, tout ce qui est low-tech, il y a différentes définitions, mais la définition que nous, on aime bien utiliser et que nous, on applique au sein de l'école, c'est des technologies qui permettent de se faire réparer et de se faire construire par n'importe qui. Typiquement, le vélo, c'est un exemple de basse technologie.
Oui, quand on parle de basse technologie, donc il y a souvent le terme low-tech qui revient, on parle aussi de technologie appropriée. Est-ce que tu peux nous donner un autre exemple, au-delà du vélo, de ce que c'est une low-tech, pour que les gens puissent bien comprendre ce que c'est, et peut-être une que vous avez en application sur votre site de Montarno?
Ah oui, évidemment. La particularité du coup du site, c'est très bien d'en parler. En fait, on est sur un tiers-lieu qui s'appelle Macondo. Ce tiers-lieu se définit comme un tiers-lieu de la transition écologique et des basses technologies. Et du coup, voilà, c'est un laboratoire en fait sur lequel on expérimente différentes basses technologies. Un exemple assez facile, et je pense que beaucoup de personnes auront déjà vu, c'est le four solaire. C'est un four qui permet, en fait, avec des panneaux qui permettent de réfléchir la lumière, créer un effet de serre avec une vitre devant et cuire ses aliments sans avoir besoin d'électricité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait avec les jeunes pour expliquer différents principes un peu compliqués de la physique et tout. Et voilà, en termes d'application, c'est assez sympa à faire avec les jeunes.
Ok, et vous parlez des jeunes, mais combien de jeunes vous avez à chaque fois dans l'école Être? Vous pouvez accueillir combien de jeunes?
Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, d'un point de vue pratico-pratique, étant donné que nos formations sont gratuites, mais en fait, on assure également le transport. On n'est pas sur Montpellier même, on assure le transport. Donc d'un point de vue pratico-pratique, on ne peut pas accueillir plus que 8 jeunes. On a tous que des permis B, donc on ne peut pas conduire plus qu'un minibus. Et du coup, 8 personnes, mais on a également réfléchi à la question, en fait, si on pouvait accueillir, si certaines personnes étaient véhiculées, est-ce qu'il faudrait accueillir plus? On estime que l'encadrement ne serait pas top si on augmentait cette barre-là. Donc aujourd'hui, on organise 12 formations dans l'année de 2 semaines et 3 formations de 3 mois. En tout, on accueille aux alentours d'une centaine de jeunes par an.
J'ai cru comprendre que l'école Être, elle fait partie d'un réseau national d'écoles qui forment au métier de demain. Est-ce que tu peux nous parler un peu du type de métier auquel vous formez, à la fois à Montarno et plus largement en France?
Oui, ce que je disais tout à l'heure sur les métiers de la transition écologique, on peut distinguer les métiers verts et les métiers de verdissants. Les métiers verts, ça va être plutôt les métiers qui sont en lien avec la nature et la protection de la nature, donc tout ce qui est à la fois maraîchage bio, mais également en fait assainissement, et donc voilà, on va plutôt remettre ça en fait métier vert. Et tout ce qui est métier verdissant, c'est en fait aujourd'hui tous les métiers, on va dire, les plus classiques, mais qui adoptent de plus en plus de pratiques en lien avec la transition écologique. Typiquement le BTP, avec la filière du réemploi des matériaux dans le BTP. Il y a également le photovoltaïque, qui va être un métier verdissant, qui n'est pas un métier directement en contact avec la nature, mais qui permet en fait d'avoir cet attrait écologique. Donc voilà, et là du coup, nous au sein de notre école, on est sur l'éco-construction, on est sur l'éco-construction, mais également sur le BTP, la déconstruction, l'initiation à la permaculture. Après, dans d'autres écoles, on va trouver plutôt le métier du bois, les métiers du métal, les métiers des ENR. Généralement, on va les trouver un peu partout. C'est ça, en fait. La transition écologique aujourd'hui, elle est un peu sur tous les métiers qu'on puisse s'imaginer.
D'accord. Et quand les jeunes sortent de votre école, est-ce que derrière, ils ont accès à un métier ou à une formation? Comment ça se passe?
Il faut savoir aujourd'hui que sur les deux dispositifs qu'on dispense, donc les formations courtes et les formations préqualifiantes qui se font aux alentours de 3 mois, c'est des formations non diplômantes. Cependant, nous, dans l'idée, aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre d'organismes de formation qualifiants sur Montpellier, car on estime que il y a déjà une offre de formation plus ou moins bien garnie sur Montpellier. Donc nous, on est vraiment le point d'entrée, et aujourd'hui, on redirige vers ces centres de formation-là, on leur demande leurs prérequis pour pouvoir travailler ces prérequis avec les jeunes et les intégrer sur ces formations qualifiantes.
Super, merci Caïs. En effet, vous avez comblé le maillon de la chaîne manquant. On se fait une courte pause musicale et on se retrouve de suite après sur Radio Aviva. Aviva.
Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. matin, on le bégayait tous, sans n'y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutait la frousse. Beau, les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez, dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner, l'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Sur 50 degrés à l'ombre, l'émission de la transition écologique sur Radio Aviva. Je suis en compagnie de Anna, Mathieu et toujours avec Kay Sanachi, coordinateur de l'école Être. Donc, on était en train de discuter du principe des écoles Être, de la formation. Est-ce que, avant de continuer cet entretien, tu veux bien nous donner les coordonnées de l'école pour que les gens qui sont intéressés puissent aller visiter le site ?
Ce que je vous propose, c'est de vous donner l'adresse du site web du réseau des écoles de la transition écologique. Comme ça, en fait, ça peut rediriger vers les différentes écoles. Donc, le site web, c'est école-transition.eu.
Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, moi, j'avais une question sur les formations. Vous disiez précédemment que Montpellier est assez bien fourni en offre de formation sur la transition écologique. Est-ce que vous pouvez citer deux, trois écoles ou deux, trois formations qu'ont intégré les élèves de la formation Être?
Nous, aujourd'hui, nos élèves, on en a énormément qui se réorientent vers soit les métiers du bois, donc voilà, le diplôme d'ouvrier qualifié en ossature bois. Il y a également les métiers de l'éco-construction, donc voilà, toujours ouvrier qualifié en éco-construction, ou alors en rénovation du bâtiment ancien. Donc là, en fait, on travaille énormément avec un partenaire qui est sur Saint-Jean-de-Védas, la SCOP Passerelle, mais aussi on est également en contact avec le GIEC BTP, qui eux, ils sont en train de travailler à verdir les métiers du BTP, donc typiquement en intégrant tout ce qui est déconstruction dans le BTP et réemploi des matériaux. Et de toute façon, au fur et à mesure, futur, tout type de formation tendra vers le verdissement de ces pratiques.
Ouais. Oui, justement, finalement, si on n'a pas une sensibilité à l'écologie, l'école de la transition, ça peut quand même venir apporter à quelqu'un des compétences sans forcément parler de métier vert. Et aujourd'hui, enfin, demain, l'économie, ça sera surtout une économie de la sobriété, finalement, comme tu dis, des métiers verdissants.
Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, pour citer une de nos anciennes stagiaires, voilà, on aime bien aussi parfois en fait avoir des petites anecdotes, des petites phrases, des petites punchlines qui viennent d'eux. Et une de nos stagiaires nous disait c'est intéressant de participer à une formation de l'écolettre, ne serait-ce que pour soi, même si on ne veut pas en faire son métier. C'est, on apprend des compétences qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que apprendre à manier des outils. Ça peut toujours servir. Et en termes d'autonomie, c'est vrai que ça change une vie, de savoir réparer soi-même. Là, on est de savoir réparer soi-même, de savoir en fait diagnostiquer un problème sur son vélo.
Vous avez un gros volet social aussi, finalement.
En effet, aujourd'hui, nous, on a un double objectif, la sensibilisation vers les métiers de la transition écologique, mais également l'insertion des jeunes. Moi, aujourd'hui, en tant que fonction support sur une association, je fais beaucoup, je suis pas mal sur les indicateurs, mais moi, que les jeunes, en fait, se réinsèrent dans un métier de la transition écologique ou que je sache que maintenant ils occupent un emploi qui leur plaît, c'est une victoire pour nous.
Moi, j'ai une question qui porte peut-être un peu plus sur l'actualité, notamment auprès des agriculteurs. Il est dit que d'ici 2030, un agriculteur sur deux en France sera à la retraite. Est-ce que justement l'école être et les formations qui sont dispensées peuvent pallier à ce manquement qui va arriver très vite et qui est pourtant un métier plus que nécessaire?
Là-dessus, en fait, malgré le contexte actuel, nous, on a énormément de jeunes qui viennent, comme vous disiez, on a à la fois des jeunes qui n'ont pas de sensibilité à la transition écologique, mais certains qui en ont. Et un certain nombre de ceux qui ont une sensibilité sont attirés par ces métiers-là, malgré le contexte actuel. Et on a énormément d'écoles. Nous, on fait uniquement de l'initiation au maraîchage et à la permaculture, mais on a énormément d'écoles dont c'est l'une des thématiques phares. Et eux, ce qu'ils préconisent, c'est plutôt une transformation du modèle. C'est une transformation du modèle qui peut être à la fois, en fait, travaillée différemment, consommée différemment. Donc, c'est un tout. Et donc, ça peut, pour répondre à votre question, oui, ça peut pallier à ces départs à la retraite et ça peut aussi permettre de sauver un peu ce domaine.
Merci Caïs. Et merci pour votre témoignage. C'est vrai que c'est important de se rendre compte que les métiers de la transition écologique, les métiers de demain, c'est pas uniquement des métiers qui sont liés au high-tech, à l'intelligence artificielle, mais qu'on aura besoin d'énormément d'ouvriers qualifiés, que ce soit, comme tu le disais, dans le bâtiment, comme vous le disiez, dans le bâtiment, dans le secteur de l'agriculture, notamment. Et donc, je trouve que c'est très important de garder ça en tête. Et donc, comme on a l'habitude de le faire, pour clôturer ce petit entretien, on voulait vous poser la question du conseil de l'invité. Donc, un événement, un lieu, une association qui mériterait d'être connue à Montpellier et dans sa région.
J'imaginais le conseil de l'invité autrement. Donc, je vais quand même répondre de la manière dont je l'imaginais. C'est oser la transition écologique. Si vous n'êtes pas un écolo dans l'âme, ça, vous verrez qu'il y a d'autres bienfaits à la transition écologique, que ce soit des bienfaits économiques, que ce soit des bienfaits logistiques dans votre vie de tous les jours. C'est un peu ça mon conseil. Et là-dessus, je pense que si vous consultez le site web de l'école de la transition écologique, c'est fort probable que vous trouviez des réponses.
Merci beaucoup.
Merci Caïs.
Merci Caïs.
Merci à vous.
C'est une ville qui porte résolument la transition écologique.
Je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par écologie.
Moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça, le réchauffement climatique, parce que je ne suis pas écolo.
C'était 50 degrés à l'ombre, la transition écologique en Occitanie, sur Radio Aviva.
You wanna know, doesn't matter if you're ballin' out of control. thought you'd understand. Maybe credit cards are in romance. Still you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. Seen a side of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go.
Aviva vous invite à un concert de jazz sensationnel. Artfell en trio international, ce mardi 23 avril à 20h15 au Gazette Café en entrée libre. Vous les avez adorés sur scène pour les 40 ans de Radio Aviva. Retrouvez-les pour une soirée magique de standards jazz populaires, de Cole Porter à Irving Berlin, en passant par Bud Flanagan. Un répertoire palpitant sorti de l'anglo-american songbook sera célébré. Artfell au piano, David Cross à la trompette, Eric Gill à la guitare. Artfell Trio, mardi 23 avril à 20h15 au Gazette Café, 6 rue Leva, à Montpellier.
Alors voilà, il y a quelques temps, j'avais plus goût à rien. J'irais les dents, l'air abattu, je répétais tout va bien. Je mettais des plans, j'lâchais des vues, j'oubliais les lendemains. Je fuyais les gens, une inconnue, mais j'avais besoin de quelqu'un. Pour te trouver, je suivais le vent comme rendu au chagrin. Désabusé, le cœur absent et dépourvu de soins. Ça faisait longtemps que je souriais plus, j'avais même vu ma fin. Mais je crois qu'avant j'étais perdu, t'es devenu mon chemin. Mais t'étais où toi pendant tout ce temps? Comme je m'y attendais pas. Oh non. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas, un slow avant de partir. Je dois t'avouer que tu m'attires vers le haut. Rêver ça, je te vois encore, toi et ton beau visage. Y'a plus personne, je suis sous mes draps, je me refais les images. Je m'illusionne du son de ta voix, j'en fais un long métrage. Y'a ta couronne qui t'attend là, même si j'ai pas assez l'âge. Tes mots résonnent même dans mes pas, je suis sur un nuage. Je suis un peu conne, je m'en remets pas, comme un long voyage. J'ai bu trop de rhum, mais à coup le pas, j'ai même perdu le langage. Tu sais, je frissonne depuis cette fois, en plus j'ai pas les chauffages. Mais t'étais où toi? Je connais pas ton nom, comme je m'y attendais pas. Dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas, un slow avant de partir. Je dois t'avouer que tu m'attires vers le haut.
pas trop comment t'aborder, mais j'avoue que ça me fait un truc. Depuis tout à l'heure, je te regarde parler, alors je sais, c'est un peu brut, mais j'ai envie de tout envoyer valser et qu'on parte loin, très loin. Je crois que j'ai même envie de t'embrasser et de recommencer demain après-demain. J'allais pas bien. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi, nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi, depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi et je m'y attendais pas. Un slow avant de partir, je dois t'avouer que tu m'attires. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi, nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi, depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas, un slow avant de partir, je dois t'avouer que tu m'attires vers le haut, vers le haut.
Radio Aviva à Montpellier, Carnon et Saint-Gély-du-Fesc, 88 FM en DAB+ et partout dans le monde, radio-aviva.com.
éclectique, Radio Aviva. Xavier Nataf.
Retrouvez-moi tous les jours à 14h pour 30 minutes coups humains de recommandations culturelles, de portraits au long cours, de collages sonores et de musique éclectique.
Aviva.
Radio Aviva, le Mac de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes en compagnie de Clémence Sweet-Poncelin, animatrice du réseau Éclair Occitanie. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Alors, pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous présenter le réseau Éclair ?
Oui, donc le réseau Éclair. Éclair, ça s'écrit E-C-L-R et tout est dans le titre. E pour énergie, C pour citoyenne, L pour local et R pour renouvelable. Donc on est un réseau qui accompagne 70 initiatives en Occitanie qui montent des projets d'énergie renouvelable pour le territoire, par le territoire.
Alors, quelles sont les valeurs et les missions de ce réseau ?
Alors, on a des valeurs qui s'incarnent dans une charte. On a une charte au niveau national qui s'appelle la charte énergie partagée. Et les valeurs, c'est la gouvernance partagée et ouverte, ce qui n'est pas toujours le cas dans les projets d'énergie renouvelable. Donc, il y a une forme de transparence sur laquelle on est assez intransigeant. C'est l'ancrage local aussi, ce qui veut dire en fait que les décisions sont prises par des acteurs du territoire. Les retombées économiques locales aussi, c'est une de nos valeurs. C'est-à-dire qu'on va tout faire, on va faire en sorte que toutes les décisions qui sont prises vont dans le sens que les retombées économiques soient au maximum en local. Et une autre exigence, c'est l'exigence écologique, puisque les projets d'énergie renouvelable fabriquent de l'énergie. Pour fabriquer de l'énergie, ça a un impact. Et nous, on fait en sorte que nos projets aient le moins d'impact possible. Ça passe par où est-ce qu'on met des parcs et où est-ce qu'on n'en met pas, et comment on fait le grillage, voilà, des choses de détail et puis des choses plus macro.
Alors, est-ce que vous pouvez en parler plus en détail, justement, c'est quoi un projet citoyen d'énergie ?
Alors déjà, qu'est-ce qu'un projet d'énergie ? Parce qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte que l'énergie, en fait, elle est pas, elle sort pas de nulle part. Il faut bien la fabriquer, notamment l'électricité, mais c'est aussi le cas de la chaleur. Et pour fabriquer l'électricité, il faut une unité de production. Donc, ça peut être une centrale nucléaire, ça peut être une centrale fossile aussi. Et puis, ça peut être, sinon, des énergies renouvelables. Donc ils vont aller chercher des sources d'énergie renouvelables, le soleil, le vent par exemple, ou nos déchets. Et du coup, c'est renouvelable et citoyen, parce que c'est porté par des acteurs du territoire qui sont des citoyens ou des collectivités locales.
Comment on met ce genre de projet en place ?
Alors souvent, il y a une envie de départ, alors d'un habitant un peu fou souvent, qui se dit tiens, c'est vrai qu'il y a des projets qui se développent, c'est par des grosses entreprises comme Total Energy, Engie Green, Arcolia, voilà, j'en ai cité trois, donc c'est bon. Et puis cet habitant se dit mais en fait, c'est vrai que ces gens viennent sur nos territoires pour exploiter une ressource, par exemple le soleil, et puis les retombées, elles sont pas sur le territoire, on a que les miettes. Et cet habitant va se dire attends, il y a peut-être un truc à faire, il va se renseigner et se dire ah, ça existe en fait, ça s'appelle les coopératives citoyennes énergie, et donc il va en parler autour de lui, il va aller voir souvent la mairie ou l'intercommunalité, et puis ensuite il va nous contacter, nous, Éclair, Éclair Occitanie, et il va nous dire est-ce que vous pouvez m'aider à monter ce projet pour que ça devienne, qu'on passe d'une idée un peu folle à un projet concret.
Alors si on devait définir des piliers pour ces projets citoyens d'énergie, qu'est-ce que ce serait ?
Alors il faut du temps, je sais qu'il y a une urgence écologique, mais c'est des projets qui prennent du temps. Déjà les projets d'énergie renouvelable, qu'ils soient citoyens ou pas, ils prennent un peu de temps. Faut compter à peu près 2 ans pour un petit parc photovoltaïque et 10 ans pour un parc éolien. Et puis vu qu'on le fait avec les habitants, on va faire en sorte que ces projets ils soient appropriés. Donc pour que les habitants soient à même de prendre les décisions, il faut aussi qu'ils montent en compétences. C'est pour ça qu'on donne beaucoup de formations. Et puis on va essayer de mobiliser autour pour qu'on ne soit pas 10 habitants, mais 200. C'est un peu plus fun quand on est 200. Alors ça va prendre du temps, cette partie humaine. Mais si ça prend du temps, c'est aussi que ce sera une plus grande réussite. Parce qu'il y a beaucoup de projets en fait, d'énergie renouvelable qui échouent à un moment, qui tombe à l'eau parce qu'il y a une mauvaise appropriation sur le territoire, il y a des mouvements de contestation de ces projets parce qu'ils ont été mal appropriés. Nous, nos projets, ils prennent un peu plus de temps parce qu'il y a de l'humain, mais au final, ils sont bien appropriés, ils s'ancrent bien sur le territoire et tout le monde a compris l'enjeu de pourquoi il y a ce parc éolien, pourquoi on a mis des panneaux photovoltaïques ici.
Alors pourquoi c'est important de passer par les habitants, par les citoyens pour ce genre de projet? Justement, vous l'avez dit, vous proposez des formations pour leur expliquer à quel point c'est important, mais pourquoi passer par les citoyens?
Parce que la transition énergétique, elle va devoir se faire. Il y a des ambitions françaises, européennes qui posent les enjeux sur la table. Il va falloir accélérer, c'est le mot qu'on répète beaucoup. Et souvent, quand on parle des citoyens dans ce sujet de l'énergie, on leur dit il va falloir mettre en place des éco-gestes, il va falloir faire moins, il va falloir changer vos comportements. Il va falloir. On leur dit ce qu'il va falloir faire. Et puis nous, on se dit, en fait, c'est pas forcément une contrainte, la transition énergétique, ça peut être une richesse pour le territoire, pour les habitants. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en avant, on essaye d'embarquer et de dire, en fait, vous avez un peu d'épargne, vous pouvez le mettre dans le projet, vous avez un peu de temps, vous pouvez aider à développer ce projet. Et du coup, ça devient vraiment une dynamique collective positive. Ça passe aussi par beaucoup d'apéros dans des salles polyvalentes un peu mal éclairées et on a de la chance, on a un beau terroir en Occitanie. Et du coup, on crée de la joie, en fait, on crée de la joie, on crée de la démocratie aussi dans ce monde de l'énergie qui est un peu compliqué à comprendre et un peu opaque. Et du coup, c'est pas juste expliquer ce qu'il faut faire, c'est pas juste dire ce qu'il faut faire, mais c'est aller demander aux habitants de quoi vous avez envie et à quoi vous voulez que votre argent serve. Et là, ça crée des projets parfois un peu fous. Par exemple, une coopérative dans le Gers qui, au début, voulait faire quelques installations photovoltaïques. Et puis finalement, il y a eu des gens motivés pour faire du conseil en énergie. Et donc, c'est des bénévoles qui font du conseil en énergie et qui aident des particuliers à s'équiper sur leur propre toit. Nous, quand on a vu ça venir à Éclair, on a dit je sais pas si c'est le bon sujet, etc. Et puis au final, c'est trop bien parce qu'ils ont installé beaucoup, beaucoup de panneaux en aidant des particuliers. Donc il y a aussi l'envie sur le terrain qui n'est pas le même du Gers au Gard. Et du coup, chaque projet est unique parce que ça va dépendre de ce que les gens ont envie de faire sur le territoire.
Alors en Occitanie particulièrement, est-ce que vous avez des chiffres à nous partager pour prendre un peu conscience de l'ampleur du réseau Éclair, que ce soit sur le nombre de projets ou le nombre de citoyens éventuellement engagés dans l'événement?
Oui, et bien le réseau Éclair, aujourd'hui on est content parce qu'on a quasiment 10 ans. On prévoit de faire une fête l'année prochaine pour fêter nos 10 ans. Et en 10 ans, c'est 70 coopératives, 70 initiatives qui ont vu le jour, qui sont encore actives. Et ces initiatives, elles représentent 7500 personnes, rien qu'en Occitanie, qui y ont cru et qui ont mis un peu de leur argent ou un peu de leur temps dans ces projets. Donc 7500 personnes qui ont été embarquées, qui prennent des décisions sur les projets de leur territoire et qui disent tiens, mon argent, si au lieu de rester à la banque, il va financer des projets à côté de chez moi, c'est un peu plus sympa. Et ça représente 210 installations qui sont branchées aujourd'hui, connectées au réseau, ce qui veut un peu tout dire et rien dire parce que on parle beaucoup de puissance quand on parle notamment d'électricité, mais ça représente une puissance qui alimente 11 000 foyers. Qui produit l'équivalent de ce que consomment 11 000 foyers en Occitanie.
Nous sommes donc en compagnie de Clémence Souyde-Poncelin, animatrice du réseau Éclair Occitanie, qui nous a présenté les principes du réseau énergie citoyenne locale et renouvelable. On se retrouve après une pause musicale pour parler spécifiquement de la journée européenne de l'énergie qui a lieu le 23 avril et continuer à parler du réseau. Aviva, here comes the sun, here comes the sun. voilà de nouveau après cette pause musicale, toujours en compagnie de Clémence Swede-Poncelin, animatrice du réseau Éclair Occitanie. Alors la journée européenne de l'énergie a lieu le 23 avril. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la genèse de cette journée? Qu'est-ce que c'est?
La journée européenne de l'énergie, ça va venir faire parler d'énergie partout en Europe. Les décisions, elles se prennent aussi en Europe sur l'énergie. Il y a plusieurs échelles de prise de décision, dont l'Europe. Et du coup, il y a un sujet à mettre l'énergie au centre des discussions, au centre aussi des festivités, j'ai envie de dire, parce que c'est une journée aussi qui appelle à des festivités et qui va replacer des ambitions européennes et françaises dans nos territoires avec des journées conviviales.
Alors, en Occitanie, il y a des événements spécifiques organisés pour l'occasion. Le réseau Éclair ne fait pas d'événements particuliers pour cette journée. En revanche, c'est l'occasion d'en parler.
Oui, tout à fait. Alors, on ne fait pas un événement. Alors, le 23, on ne le fait pas. On aura d'ailleurs une formation sur l'agrivoltaïsme ce jour-là. Mais par contre, on fait des événements de manière assez régulière. Et très proche de cette journée, on a un événement à Perpignan qui s'appelle la Fête de l'énergie. Fête, F-A-I-T-E-S, puisqu'on a envie de faire de l'énergie. Voilà, petit jeu de mots, c'est gratuit. Donc la Fête de l'énergie à Perpignan, qui est l'occasion aussi de fêter l'anniversaire d'une coopérative des Pyrénées-Orientales qui s'appelle Caténer. Caténer, qui est un petit jeu de mots aussi sur... Caténer, c'est le nom des câbles électriques des trains. Donc Caténer, où il y a 300 habitants des Pyrénées-Orientales qui sont dans cette coopérative, et ça fait 10 ans que ça tourne. Donc on fait une journée festive avec une conférence gesticulée, il y aura un concert, il y aura des ateliers autour de l'énergie.
Alors, on va aborder un peu l'Europe et les questions énergétiques. Est-ce que vous considérez que les objectifs en termes de consommation et d'énergie renouvelable sont ambitieux? Et surtout, comment atteindre ces objectifs?
Alors, j'ai plus les chiffres en tête. Je sais que les ambitions, ne serait-ce que françaises, sont très, 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 très ambitieuses. Donc, au niveau européen, c'est la même, sauf qu'il faut embarquer 27 pays. Donc, c'est encore plus fou. Et qui dit ambition, dit aussi moyen qu'on met derrière. Donc, c'est aussi ça le sujet, c'est comment on atteint ces objectifs. En termes de moyens, en tout cas, il y a en France un petit changement. C'est ce qu'on appelle la loi d'accélération des énergies renouvelables. Donc, on a dit, l'État a dit qu'il fallait accélérer. Et derrière, les moyens qui sont mis, si on écoute les maires, notamment, des petits villages, ils ne sont pas à la hauteur, dans le sens où on dit aux maires, dites-nous où on va mettre de l'éolien ou du photovoltaïque ou de la méthanisation chez vous. Mais on leur laisse 3 mois pour le faire. Il n'y a pas de vrai moyen pour la concertation, pour que ce soit bien approprié sur le territoire. Et on retrouve un peu la même chose au niveau européen. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont actées de manière démocratique au niveau européen avec le Parlement européen. Mais comment ça vient s'ancrer, comment ça vient être approprié par les bons acteurs, ça c'est tout le sujet. Et je pense que là, l'écueil, il est vraiment là. C'est comment on fixe des objectifs un peu méta, on ne sait pas trop à quoi ils correspondent. Et derrière, on espère que ça va ruisseler de manière un peu magique et donner des projets. Aujourd'hui, les moyens, on ne les a pas entre les mains, nous, acteurs très locaux dans les territoires. Donc c'est pour ça aussi que les sujets, les ambitions européennes, elles nous échappent. On sait qu'on va aller sur des nouvelles filières, par exemple. L'éolien en mer qui se déploie énormément. On est très concernés en Occitanie, on a une frontière... une façade maritime, l'éolien en mer par exemple, c'est un sujet qui échappe à plein de gens. On ne sait pas à quoi ça va ressembler, on ne se rend pas compte qu'on va industrialiser la mer, on ne sait pas qui va s'enrichir avec l'éolien en mer. Et ça, c'est des objectifs qui viennent de l'Europe et de la France et qui vont s'incarner en fait depuis Villeneuve-les-Maguelones, depuis Gruissant, depuis Port-la-Nouvelle. Et ce n'est pas Port-la-Nouvelle qu'aura décidé exactement d'à quoi ressemblera sa façade maritime.
Alors justement, comment les acteurs de terrain jugent ces ambitions? Quels sont les besoins?
Le besoin, il est vraiment clair, c'est de l'ingénierie, c'est-à-dire des gens, en fait, au sein notamment des collectivités locales. Il y a beaucoup de... Nous, on est contactés par beaucoup de mairies qui nous disent « Oui, on veut bien en faire des énergies renouvelables, mais on n'a pas les moyens humains pour y réfléchir. Des énergies renouvelables, je vous le disais plus tôt, ça prend du temps, en fait, ça prend aussi des compétences. Et aujourd'hui, ces compétences, ces capitaux et ce temps, c'est plutôt les acteurs industriels qui les ont. Sauf que quand ils arrivent sur un territoire pour présenter des projets, la mairie, les habitants, eux qui n'ont pas tout ça, se disent « Mais attendez, de quoi vous voulez ? Non, ne venez pas chez nous. » Donc voilà, donc il y a vraiment un écart entre qui a les compétences et les capitaux et qui ne les a pas. Donc c'est sur les territoires. Et donc, quand on arrive avec des objectifs qui font rêver et qui font peur, souvent, ça amène de l'inaction. Donc, c'est pour ça que nous, on n'agit pas pour répondre à des objectifs européens. Par contre, quand nos coopératives citoyennes passent à l'action, c'est parce qu'elles ont bien compris que c'est pas l'Europe qui l'a dit, c'est nos usages, c'est nos vies. Il y aura besoin de plus d'électricité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'accès à l'électricité va être un énorme sujet dans les années à venir. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on agit. C'est pas parce que l'Europe l'a dit, c'est parce qu'il y a du bon sens et des prospectives techniques qui nous disent que l'électricité va être un énorme sujet.
Alors justement, où peut-on trouver plus de ressources pour en savoir plus, pour comprendre plus en détail ce que l'on peut faire pour agir si justement, comme vous l'avez dit, un habitant pas loin d'ici se dit « Tiens, si je faisais quelque chose pour changer les choses ?»
Et bien si, déjà c'est super si un habitant se dit ça et qu'il a envie de changer les choses. Alors il y a notre site internet sur lequel il va retrouver quand même pas mal d'infos et surtout les bonnes personnes à contacter. Donc notre site internet c'est ec-lr.org. Et sur ce site, il y a une carte des projets. Donc on a de la chance en Occitanie, je pense que quasiment tout le monde pourrait avoir une coopérative citoyenne à moins de 20 km de chez soi. Donc il suffit d'aller voir sur cette carte. Si vous habitez dans le Haut-Languedoc par exemple, vous allez voir qu'il y a Héliotope. Si vous habitez dans le Gers, il y a RK. Dans les Pyrénées-Orientales, il y a Caténaire. Dans le Gard, il y a Act. Voilà, à Montpellier, il y a Énergie en Toit. Donc on a vraiment plein de coopératives. Et si vous avez envie d'agir, eh ben, le plus simple, c'est de voir qui sont les gens dans cette coopérative, ce qu'ils font, les projets qu'ils mènent, et peut-être de placer un petit peu de votre épargne ou d'aller les rencontrer en physique, vraiment, d'aller leur parler et de voir si vous pouvez agir avec eux de manière bénévole.
Il y a donc plein de choses à faire. On le rappelle, la journée européenne de l'énergie a lieu le 23 avril. C'est le moment de se renseigner sur toutes ces questions. Nous étions en compagnie de Clémence Swid-Poncelin, animatrice du réseau Éclair Occitanie. Donc je le rappelle, Éclair Énergie Citoyenne Locale et Renouvelable. Merci.
Merci beaucoup.
Votre émission est terminée. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site internet www.radio-aviva.com.
Aviva. C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. My mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Aviva.
Always dreaming of me, Sam, honey, you are.
ce sentiment bizarre que je suis seul. Parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour. De mon village capital, où l'air chaud peut être glacial, je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor. Je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Ces boîtes pour danser, les nuits passent inhabitées. J'écoute les battements de mon cœur me répéter. Aucune musique au monde ne saura remplacer.
Mira qué fácil te lo voy a decir, que estamos tomando.